Métaphysique du 11 novembre 1983, Père Marie-Dominique Philippe Rimond.
La dernière fois, nous avons essayé de comprendre rapidement, mais je crois, en insistant suffisamment sur certains points un peu brûlants, sur la personne en philosophie grecque. Je voudrais maintenant entrer, là, ça pourrait être très long, on verra le temps qu'on a, parce que ça pourrait être extrêmement long et très intéressant. C'est sûrement un des passages importants pour le problème de la personne, parce que c'est là où on voit comment certains problèmes ont été mis particulièrement en lumière grâce au problème de la foi. Et c'est toujours le passage entre la philosophie et la théologie. Qu'est-ce que c'est que ce passage? Qu'est-ce que ça correspond exactement? J'ai déjà dit le père Henri Brincard est là-dedans, et il voit que c'est pas commode. Hein. Plus on entre dedans, plus il le fait par rapport, non pas à la personne, mais il le fait par rapport à l'acte et la puissance. Aristote, saint Thomas. C'est intéressant pour voir comment le théologien digère la philosophie. Et il digère d'une façon assez particulière, le théologien. Il a quelquefois deux estomacs. Il y a une digestion qui est lente, lente. Vous ne l'avez pas trouvé, tant pis. On va nous descendre. Il n'est pas là, lui. Notre bibliothécaire. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, non, mais il se saute pas du reste, je peux voir, simplement pour le signaler. Essayez de découvrir maintenant comment le problème de la personne va être développé chez les théologiens. On ne peut pas nier que les théologiens ont, à l'égard de la personne humaine, développé énormément le problème de la personne. Alors, vous voyez, il y aurait, je le ferai peut-être, si ça vous intéresse, j'ai fait l'enquête dans saint Thomas, considérer qu'est-ce que c'est que la personne chez saint Thomas. Et ça, je crois que ça vaut la peine, parce que c'est une manière d'entrer dans saint Thomas, et pour vous, avec le cours de la très sainte Trinité, c'est évidemment quelque chose d'intéressant à voir. Ça revient tout le temps. Bon. Alors, vous voyez que chez les théologiens, grecs ou latins, les pères de l'Église, ils ont mis pleinement en lumière le problème de la personne à cause du mystère de la très sainte Trinité. À cause du mystère de l'incarnation. À cause du mystère de la création. À cause du mystère de l'image divine. Vous voyez comme ça revient tout le temps. L'imago Dei. On est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ben, c'est quand même le problème de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on retrouve constamment ce problème, c'est toute la théologie morale, c'est la théologie de la personne. Saint Thomas le dit de façon explicite, c'est bien évident. Et c'est le problème de l'image de Dieu. Tout le problème de la très sainte Trinité, c'est le problème de la personne. Tout le problème de l'incarnation, c'est le problème de la personne. Tout le problème de la création, c'est le problème de la personne. Tout le problème du péché, même au point, le problème du péché des anges. Donc on pourrait dire, voyez, que toute la théologie va se nouer autour du problème de la personne humaine. Autour de la notion de personne, disons plus exactement, pas la personne humaine, mais de la notion de personne. Qu'est-ce que c'est que la personne? Alors, si c'est vrai ceci, on touche là une pièce maîtresse de la théologie. Et si on touche une pièce maîtresse de la théologie, cette notion de la personne qui se retrouve à travers toute la théologie, on va voir comment la foi va mûrir le problème philosophique. Et que cette maturation, cette manière de mûrir le problème philosophique se fait en premier lieu autour de la personne. Mais c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Alors, ça, j'insisterai un tout petit peu à cause de saint Thomas. Parce que je crois que pour nous, c'est quand même important de voir ça. Et c'est en même temps le lien entre le problème philosophique et le problème théologique. Je crois que ce sont les quelques grands problèmes. Alors, je voulais trouver Alcuin. Ça ne vous dit rien du tout, hein. Mais c'est toujours la même chose. Ça doit être resté dans mes caisses. Et alors, c'est resté dans les caisses, parce que ce n'est pas mis à la bibliothèque. Non, c'est bien. Il y a une thèse qui s'est faite il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2-3 ans, sur Alcuin, le problème de la personne chez Alcuin. C'est intéressant parce que c'est quand même les premières pas vers le problème de la personne. Sur ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais voyons, puisque je ne l'ai pas ici sous la main, voyons le problème de la personne chez saint Augustin, chez Boès, chez saint Thomas. Alcuin, ce qui intéresse, c'est surtout le problème de la personne juridique. Alcuin est un juriste. Alors, ça intéresse les juristes. Et il y a quelque chose d'intéressant à faire pour les juristes avec le problème de la personne. Parce que le problème de la personne, c'est le lieu du droit. J'ai un droit. Et ça définit la personne. Le philosophe regarde au point de vue de la personne autour de la proairesis, le choix. Et le théologien, lui, regarde le problème de la personne dans l'autonomie personnelle. Et trois considérations très très différentes et qui se font dans le problème théologique. Nous verrons chez saint Thomas. Il y a dans saint Thomas diverses perspectives de la personne. Et vous pourriez évidemment regarder saint Thomas dans une perspective dialectique, et vous verriez que ces perspectives de la personne luttent les unes contre les autres. C'est facile à voir, on essaiera de le voir. Alors, saint Augustin, c'est la théologie de la personne demeure complexe. En effet, si persona est chez lui un terme absolu, non un terme relatif, il le dit lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'en sont pas moins des relatifs purs, excluant, semble-t-il, toute subsistance. C'est comme ça qu'il émet le problème, c'est très intéressant. Le premier problème chez saint Augustin, je ne vous donne pas les références, vous les trouverez hein, dans l'être, la recherche de philosophie première dans la seconde partie, au propos de la personne, donc page 688. C'est très vrai que saint Augustin est le premier à comprendre que la personne est un terme absolu et que, de fait, je suis en face du mystère de la très sainte Trinité où le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont relatifs les uns aux autres. Alors, comment l'absolu devient-il relatif? Comment le relatif peut-il garder l'absolu? C'est une manière intéressante de regarder le mystère de la très sainte Trinité. Dans une famille humaine, Le Père et le Fils sont relatifs l'un à l'autre. Et donc, ils sont relatifs, ils perdent leur absolu. Alors, on parlera de fonction du Père, de fonction du Fils, et on parlera de la personne, et on dira que si le Fils est trop Fils, il perd sa personnalité, et si le Père est trop Père, il perd sa personnalité. Vous voyez ? On mettra presque une lutte entre la fonction et la personne. Et c'est très vrai, au point de vue humain. Au point de vue humain, c'est un très gros problème. Comment la personne peut-elle assumer une fonction? Est-ce qu'une personne est capable d'assumer une fonction? Ou est-ce qu'au contraire, la personne, comme telle, étant un absolu, bien oui, elle est au-delà de la fonction. Et quelquefois, la fonction tue la personne. On sait très bien, quand on vous confie une fonction trop importante, qui vous prend trop, et qu'on n'a pas encore de personnalité suffisante, la fonction mange la personne. C'est un cas psychologique très connu. N'est-ce pas ? Et on sait très bien. Et qu'à ce moment-là, on a beaucoup de peine de redécouvrir sa personnalité. Parce qu'on devient fonctionnaire. Et le pire des fonctionnaires, c'est le fonctionnaire religieux. Parce qu'alors là, il met tout son absolu dans le point de vue religieux, il devient fonctionnaire religieux. Il n'y a plus de personne. La fonction a mangé la personne. Donc il n'y a plus d'autonomie. Il n'y a plus de véritable liberté. On devient fonctionnaire. La fonction est ordonnée vers l'efficacité. La personne est ordonnée vers la finalité. Alors saint Augustin saisit ça d'une manière très très à la manière saint Augustin. Vous savez, saint Augustin, c'est quand même beaucoup de rhétorique. Mais c'est une rhétorique intelligente. C'est un grand rhéteur, saint Augustin. Un très grand rhéteur. Alors le point de vue psychologique joue un rôle très très important chez saint Augustin. C'est évident, c'est pour ça que saint Augustin ne forme pas. Il nous détend. Rien qui détend plus que de dire de saint Augustin. Tandis que saint Thomas ne détend pas du tout. Mais il forme. C'est la différence hein, entre saint Augustin et saint... La différence entre Platon et Aristote. Dans l'ordre chrétien. Vous voyez, saint Augustin, c'est merveilleux. L'autre jour, je me replongeais dans saint Augustin pour chercher quelques petites définitions de saint sur l'amour que je voulais retrouver. Mais on passe une heure dans saint Augustin sans s'en apercevoir. Hein. C'est évident, c'est merveilleux, toutes les comparaisons. C'est de la rhétorique, une merveilleuse rhétorique, une rhétorique intelligente. Et c'est beau la rhétorique intelligente, parce que ça vous persuade. Et saint Augustin vous met dans ce climat particulier. Eh bien, dans saint Augustin, on voit que le problème est posé, la rhétorique pose le problème. De même, il est assez difficile de distinguer chez saint Augustin le rôle de la personne et celui de la nature. Dans l'acte de la procession, ce qui s'intéresse au De Trinitate de saint Augustin, et quand on fait le traité de la très sainte Trinité, il est bon d'avoir lu le De Trinitate. Là, je marche un peu sur les plates-bandes de celui qui enseigne le dogme. Mais c'est bon, il faut avoir lu une fois dans sa vie le De Trinitate de saint Augustin. Ne pas l'avoir lu, c'est un manque à la culture chrétienne. Et donc l'année où on doit le lire, c'est l'année où on fait le Trinité, Trinité. Et c'est très reposant de voir le De Trinitate de saint Augustin, comparativement le De Trinitate de saint Thomas. Et c'est très intéressant de faire les comparaisons. Et c'est très intéressant de voir comment saint Augustin nous donne des analogies psychologiques qui ne sont pas vraies, mais qui sont vraies rhétoriquement. C'est admirable au point de vue rhétorique. Donc saint Augustin nous aide énormément à mieux saisir le point de vue spirituel. Ça nous introduit. Tandis que saint Thomas, quelquefois, surtout dans le De Trinitate, risque de nous assécher. Hein, si on n'est pas très très intellectuel. Si l'intelligence n'est pas très très poussée, saint Thomas, dans son De Trinitate, hein, c'est un des traités les plus rébarbatif et les plus beaux. Mais rébarbatif et les plus beaux, c'est-à-dire que les épines sont particulièrement grandes pour atteindre le point de vue de la fécondité de la pensée de saint Thomas. Dans son approche du mystère de la très sainte Trinité par le point de vue de l'image de Dieu, saint Augustin définit la personne humaine comme une substance rationnelle consistant d'âme et de corps. Ça, c'est directement l'expression de saint Augustin. Une substance rationnelle consistant d'âme et de corps. Vous voyez, comme c'est difficile à penser. C'est donc dans le De Trinitate pour essayer de comprendre par l'image de Dieu. Nous avons en nous l'image de Dieu, elle est à la ressemblance de la très sainte Trinité. Et c'est parce que saint Augustin part de là qu'il va essayer de trouver la grande analogie de la connaissance et de l'amour, de la mémoire, de la connaissance et de l'amour, pour voir comment nous pouvons aboutir à la très sainte Trinité. Et donc saisir ce qu'est la personne humaine et ce qu'est la personne divine. L'âme elle-même possédant en elle trois éléments, mens, notitia ou amour, ou encore memoria, intelligentsia, voluntas. C'est la trilogie de saint Augustin qui définit la personne. Ça, c'est intéressant, mais c'est descriptif. Définir la personne memoria, intelligentia, voluntas, ou définir la personne mens, notitia et amor, c'est descriptif. Alors, il y a l'effort d'aller plus loin quand il dit que la personne, c'est une substance rationnelle consistant d'âme et de corps. Oui, une substance rationnelle. consistant d'âme et de corps, alors le point de vue de la nature. Je n'insiste pas plus sur saint Augustin, mais ce serait très intéressant. Si quelqu'un parmi vous s'intéresse à saint Augustin, on ne perd pas son temps à lire du saint Augustin. Hein, on ne perd pas son temps. Et pour ceux qui ont de la peine à entrer dans saint Thomas, saint Augustin est une base, un fondement très bon et très grand. Il faut entrer, enfin, je dis des Trinités, je crois que l'année où on fait le traité de la Très Sainte Trinité, on doit lire des Trinités. Alors, ceux qui s'intéressent plus à saint Augustin, il y a une piste qui serait très intéressante à regarder et qui, je crois, n'a pas été faite parfaitement. C'est de découvrir dans saint Augustin ce qu'est la personne. C'est quelque chose d'intéressant. Quand nous disons la personne du Père, nous ne disons rien d'autre que la substance du Père. Saint Augustin qui dit ça. Vous voyez comme c'est difficile à préciser alors. Donc il identifie personne et substance. Ah, vous voyez la chose énorme. Une seule substance en Dieu et trois personnes. Pauvre saint Augustin. Et il le dit, hein, c'est textuel, c'est pas moi qui l'invente. Quand nous disons la personne du Père, nous ne disons rien d'autre que la substance du Père. Alors nous disons, nous, pour exprimer le mystère, trois personnes, une seule substance. Alors vous voyez que là, ce que dit saint Augustin, c'est une approximation, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Quelle différence entre la substance et la personne? Quand il définit la personne, une substance rationnelle consistant d'âme et de corps, c'est vrai pour l'homme. En Dieu, il ne prend plus que la substance. Et si je ne prends plus que la substance, je tombe dans l'unité. Et donc je ne vois plus la distinction des personnes. Mais c'est ça que le problème de saint Thomas. Hein. Saint Thomas va se heurter là-dessus. Quels seront les rapports entre la substance qui est une dans la très sainte Trinité et les trois personnes? Ensuite, quelqu'un qu'il faut regarder, qui est beaucoup moins drôle que saint Augustin, beaucoup plus sec, beaucoup moins drôle, c'est Boèce. Mais Boèce joue un rôle tellement important dans le Moyen-Âge qu'on ne peut pas ne pas regarder Boèce. Mais c'est vraiment pas drôle. Si vous voulez, dans vos moments où vous êtes particulièrement triste, lisez le De Consolatione Philosophiae. Alors vous avez la consolation du philosophe et vous commencez à comprendre que le philosophe ne se console pas beaucoup. Alors, en ce qui concerne la personne, l'apport de Boèce est beaucoup plus important que celui de saint Augustin. Je crois que saint Augustin, on reste devant des approximations. C'est pas du reste ça qui l'a intéressé directement. Je crois que ce qui l'a intéressé directement, c'est beaucoup plus les analogies de l'image de Dieu et de la très sainte Trinité. Le reflet de la Trinité dans l'image de Dieu. C'est beaucoup plus ça qui l'a intéressé. Que de préciser exactement trois personnes dans une substance. Tandis que Boèce, lui, il y a un problème de la personne qui l'intéresse. Après avoir, dans ses commentaires de Porphyre, où il n'emploie guère le terme persona, présenté la forme de l'individu comme constituée d'accident, comme une réalité d'ordre accidentel, ce qui sera repris par Occam, c'est la définition de l'individu de Occam. La forme de l'accident comme constituée d'accident. C'est la multitude d'accidents qui constitue l'individu. Ce n'est pas la nature. Boèce, dans son commentaire d'Aristote, présente l'individu comme une réalité substantielle. Et dans son dernier ouvrage, le De Consolatione Philosophiae, qui est encore un ouvrage philosophique, il montre comment l'homme est semblable à Dieu par le point de vue du mens, et appelé à une vocation divine par la connaissance, la liberté et l'amour. Donc il reprend le point de vue saint Augustin, transformé du reste. Mais dans ses œuvres théologiques, donc on ne peut pas dire qu'il y a une définition philosophique de la personne. Parce qu'au fond, le souci de saint Augustin, le souci de Boèce, c'est de montrer beaucoup plus l'individu. Dans les œuvres philosophiques, compléter Aristote en regardant beaucoup plus ce que c'est que l'individu. Mais dans ses œuvres théologiques, Boès précise le concept de la personne. La définition qu'il en donne est bien connue. C'est une définition qu'il faut connaître. Même si on voit que ce n'est pas très intéressant, mais c'est quand même une définition qu'il faut connaître. C'est dans le traité du De duabus naturis et una persona. Donc c'est son traité sur les deux natures et une personne. Les deux natures et une personne, c'est son traité sur la très sainte, sur le Christ. Alors voici ce qu'il nous dit. Si la personne se trouve seulement dans les substances, et celles-là seules qui sont raisonnables, si toute substance est une nature et ne réside pas dans les êtres universels, mais dans les individus, la définition de la personne est donc trouvée. La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. C'est la fameuse définition de ça. Vous allez voir que saint Thomas va tourner autour indéfiniment. Ça a encombré saint Thomas. La définition de Boès, ça on comprend. C'est une définition qui est devenue classique. C'est une définition devant laquelle on s'incline. Les théologiens s'inclinent devant. Alors retenez, la personne est une substance individuelle d'une nature raisonnable. Ça c'est une définition qu'il faut savoir. Cette définition, ajoute Boès, correspond à ce que les Grecs appellent hypostasis, qui désigne chez eux la subsistance individuelle d'une nature raisonnable. C'est intéressant de voir que hypostasis, je vous l'ai rappelé la dernière fois, vous savez bien que le terme hypostasis existe chez Aristote, mais dans un sens assez différent. N'est-ce pas? Assez différent. Aristote étant le fils d'un médecin, s'intéresse à hypostasis d'une façon tout à fait différente. Hein, et dit carrément hypostasis, le dépôt de l'urine. Et c'est intéressant de voir que Boès dit hypostasis persona. Et ça, c'est très amusant. Je crois que c'est là où la philologie et la philosophie se rencontrent le mieux. C'est pour ça que je le cite. Tu vois, et c'est intéressant de voir comment un terme qui au point de départ, bon, c'est très bien, hypostasis, hein, tout simplement, ce qui est en dessous, hypostasis, ce qui est la stabilité la plus grande, hein. Alors c'est le dépôt, la stabilité la plus grande, hein, parce que c'est pas périphérique, c'est la stabilité la plus grande. Alors cette stabilité la plus fondamentale et la plus grande, eh bien, représente quelque chose de radical. Ce terme hypostasis, cette expression hypostasis, va de fait être prise chez les pères de l'Église, chez Boès, déjà, pour désigner la personne. Et vous comprenez pourquoi? Parce que ça exprime quelque chose de fondamental, d'individuel et d'autonome. Et c'est ça qui va désigner la personne. Cette définition à Jules Boès correspond à ce que les Grecs appellent hypostasis, hein, qui désigne chez eux la subsistance individuelle d'une nature raisonnable. Ceci, c'est toujours le même traité. C'est dans le même traité qui dit ça. En traduisant hypostasis par subsistance individuelle, Boès veut désigner cette subsistance il veut désigner cette substance de la subsistance qui serait celle des genres et des espèces. Ceci, selon Boès, subsiste en ce sens seulement qu'ils n'ont pas besoin d'accident pour être, alors que les individus non seulement subsistent, mais encore supportent les accidents. Les individus non seulement subsistent, mais supportent des accidents. Vous voyez la différence entre l'individu et la personne. Ceux qui s'intéressent à la philosophie de Maritain, c'est intéressant de voir ici la différence que donne Boès. L'individu supponit, substante des accidents. Il ne peut pas séparer l'individu de l'accident. tandis que je peux séparer la personne de l'accident. Très curieux comme vision, la différence entre l'individu et la personne. Autrement dit, la personne va tout de suite avoir ce lien avec la substance et la substance individuelle. La substance individuelle peut se comprendre sans les accidents. Tandis qu'au contraire, l'individu ne peut jamais se comprendre sans les accidents. Donc, il supporte les accidents. Une fois établie l'équivalence des termes grecs et latins, ousia, essentia, ousiosis, subsistentia, hypostasis, substantia, prosopon, persona, le passage, hein, Boès est toujours, il faut bien se dire, il y a Cicéron et Boès qui sont les passages du grec et du latin. Avec tout ce que ça charrie de particulier entre les deux. Mais c'est le passage du génie grec au génie latin, et c'est intéressant de voir ces expressions aristotéliciennes traduites par Boès. On voit la même chose, surtout du côté éthique, parce que c'est surtout du côté éthique, chez Cicéron. Ça en est deux qui jouent un rôle important. Alors Cicéron, c'est l'orateur, et Boès, c'est le logicien. Curieux, c'est les deux qui vont jouer ce rôle. Boès conclut que l'homme a une ousia, une essence, puisqu'il est une ousiosis, c'est-à-dire une subsistance, puisqu'il n'est pas dans un sujet. Une hypostasis est substance, donc il est substance, puisqu'il est sous les autres qui ne sont pas, qui eux ne subsistent pas. Et il est une persona, puisqu'il est un individu raisonnable. Vous voyez donc que ça reste quelque chose d'assez matériel. C'est essayer de préciser ce que c'est que la substance, la personne, comparativement à la subsistance, comparativement à la substance, comparativement à l'individu. Et il joue autour de ces différents de ces différentes expressions. Individu, substance, subsistance, personne. Et il essaie de préciser ce que représentent ces différents aspects-là. Alors, Boès va jouer le rôle d'une autorité. Très gênant. Parce qu'au fond, à partir de Boès, beaucoup ne pensent plus. Ils appuieront sur l'autorité. C'est toujours le danger. Parce que l'autorité, au point de vue philosophique, vous savez bien, c'est la dernière des raisons. Alors, je vais entrer maintenant un tout petit peu dans la pensée de saint Thomas. Je vais m'arrêter un peu plus longtemps, là, parce que je crois que c'est important pour nous. Essayez de comprendre ce point de vue-là. C'est dans une perspective théologique. Je crois qu'on peut passer directement de Boès à saint Thomas. Il y a entre deux, il y a beaucoup de gens. Hein. Mais au fond, au niveau de la personne, ça ne va pas ajouter grand-chose. Très cru. Albert le Grand reprend Boès, c'est tout. Quand vous regardez les sentences, vous voyez que c'est Boès. C'est toujours Boès qui fait l'autorité. C'est dans une perspective théologique, dans sa théologie trinitaire et christologique, que saint Thomas étudie la notion de personne. À la suite de Pierre Lombard, il s'appuie sur la définition de Boès, mais lui donne une nouvelle signification. Tend à être plus philosophique. Voilà, c'est peut-être là que vous voyez tout de suite le génie de saint Thomas. Il ne peut pas se contenter de la logique. C'est impossible. Alors que Pierre Lombard se contente de la logique. Dans son commentaire des sentences, il faut toujours, quand on veut essayer de chercher un tout petit peu l'évolution de la pensée de saint Thomas, il faut nous plonger dans le commentaire des sentences. Le commentaire des sentences, vous savez bien, c'est le jeune saint Thomas. Le jeune saint Thomas à Paris qui commente les sentences. Donc il enseigne en commentant les sentences. Dans son commentaire des sentences, où il commente pour la première fois cette définition, la personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle, saint Thomas explique que dans la définition de la personne sont impliqués trois éléments. Ponuntu, sont posés trois éléments. Très très curieux. Voir cette chose-là. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant à étudier de près pour comprendre un peu la manière dont saint Thomas fait une herméneutique. Parce que saint Thomas est là interprète, il est commentateur. C'est pas saint Thomas dans son originalité, c'est saint Thomas qui se sert d'un donné. Il y a un donné sur la personne. Eh bien, ce donné, on le reçoit. On commence par le recevoir. C'est tout à fait le Moyen Âge. La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Il y a trois éléments. Premièrement, le genre de la réalité, qui est signifié par le nom de personne lorsqu'on dit substance. Vous voyez que c'est déjà très très curieux. On est en pleine logique. On va essayer d'expliquer cette définition par le genre et les différences spécifiques. C'est aussi très proche de toute une pensée qui est le propre de la scolastique. Logique et philosophie sont quelquefois un peu confondues. Aristote n'a jamais confondu la logique et la métaphysique. Les théologiens ont de fait confondu souvent logique et métaphysique. Alors comprenez bien, hein, je ne les attaque pas, ça, je constate. Et je crois qu'il faut le faire. Il faut constater ça. Le théologien parle de la foi. La foi se sert de la logique. La foi se sert de la philosophie. Donc, au niveau du service, ils ont deux tabliers différents, mais ils font la même issue. Je me sers de la logique. Je me sers de la philosophie. C'est très dangereux, vous voyez, d'être uniquement dans l'ordre du service, de utilitaire. Le service. La philosophie en chilla. Et alors vous avez la pensée théologique. Alors faites ça un tout petit peu, vous allez comprendre un peu la définition de la personne au niveau théologique. La mixture. Alors je me sers de la logique. Enfin, c'est très très net. Dans les sentences, on ne peut pas nier que saint Thomas se sert directement de ce que représente le point de vue de la logique. Donc vous avez dans le premier livre des sentences, distinction 25, question 1, article 1er, solution 1. Alors, je prends et j'essaie avec vous de regarder. Premièrement, le genre. Si je veux définir ce que c'est que la personne, je regarde ce que c'est que le genre. Quel est le genre de la personne? C'est la substance. La différence par laquelle le genre est contracté à une nature déterminée, en laquelle se trouve la réalité qui est personne. Ce qui est exprimé par d'une nature rationnelle. Voilà la différence d'une nature rationnelle. Substance d'une nature rationnelle. Troisièmement, le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité individuelle. Curieux, vous avez ceux qui ont fait un peu de logique, vous en avez fait pendant. Vous voyez les gens et la différence spécifique. Il faut moins savoir ça, vous ne savez pas ça. Ça, c'est élémentaire. Hein? Tout le monde sait ce que c'est que le genre. Quels sont ceux qui savent ce que c'est que le genre? Alors j'explique, parce que si je parle de genre et que personne ne comprend rien ce que c'est pas la peine. Bon. Le genre, on appelle le genre un des prédicables, faut le savoir. Le genre est un des prédicables, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'être attribué à quelque chose d'autre. C'est un attribut. Le prédicable, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les catégories, les prédicables. Alors, faisons attention. Les prédicables, c'est... Les prédicables, c'est justement les cinq prédicables. Genre, différent spécifique, espèce, propre et accident. Ça, il faut savoir. Surtout quand on fait un peu de théologie. Bon, il faut savoir ça. Il faut savoir les cinq prédicables. Les cinq prédicables. Il faut savoir que les cinq prédicables sont des êtres de raison. Les êtres de raison, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe que dans l'intelligence. Et que l'intelligence seule réalise. L'intelligence seule réalise ce que c'est que ces prédicats. Ça ne trouve pas, vous ne trouverez jamais de gens dans la réalité. Vous voyez comme c'est délicat. La personne, c'est une réalité qui existe. Et vous allez ramener la personne à une définition. La définition, c'est d'ordre logique. La définition n'est pas d'ordre philosophique. En philosophie, on ne définit jamais. On saisit des principes et des causes. C'est la logique qui définit. Et la logique seule définit. Et toute la scolastique va confondre le point de vue logique et le point de vue philosophique parce qu'on cherchera toujours à définir. C'est très important de définir. Mais ça ne donne pas l'intelligence de la chose. Ça me permet d'envelopper et d'utiliser. C'est l'hameçon par lequel le poisson se prend. Mais au fond, ça ne me permet pas, ça ne me fait pas comprendre. Le genre, c'est quoi? C'est donc, le genre, c'est l'être de raison, l'universel. Les prédicats sont universels et les cinq prédicats me donnent les cinq modes de l'universel. L'universel se présente à moi, l'universel c'est l'être de raison par excellence. L'universel c'est ce que mon intelligence fabrique sans le savoir. Fabriquer l'universel sans le savoir, inconsciemment. Eh bien l'universel c'est ce que l'intelligence fabrique. Dès que l'intelligence connaît d'une manière abstraite. Alors, elle fabrique l'universel. L'universel qualifie toujours un concept, en premier lieu. J'ai des concepts qui impliquent l'universalité. J'ai des concepts qui sont au contraire particuliers. Pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Et ça qualifie aussi mon langage. Mon langage est universel. Il y a des termes universels. Donc l'universel est toujours quelque chose qui vient qualifier ou mon concept, ma pensée, dans mon concept, ou mon langage. Donc l'universel, il y a cinq modalités d'universel. L'universel générique, c'est l'universel fondamental. C'est l'universel le premier, c'est celui qui enveloppe le plus. L'universel genre animal. Vous n'avez jamais vu animal. Mais vous pouvez penser animal. Vous pouvez signifier ce que c'est que l'animal. L'animal, c'est le concept générique qui enveloppe le plus tout ce qui implique d'être animal, sans aucune différence spécifique. Donc c'est ce qui est plus général. C'est vraiment la généralité la plus grande. Hein. C'est pour ça que saint Thomas dit que le genre se prend ex parte materiae. Se prend de la matière. Le genre est toujours quelque chose d'indéterminé. Toujours. C'est un tout potentiel, le genre. C'est quelque chose qui implique une attente. Le genre. Ici, vous voyez bien ce que dit saint Thomas, le genre, c'est la substance. Le genre, c'est la substance. Alors, ce genre qui est la substance, qu'est-ce que c'est? C'est une des catégories. Le genre et la substance. Même dans des catégories, on considère le genre plutôt comme espèce qu'on peut le considérer. Donc, je suis au niveau des prédicaments et des catégories. Des catégories des prédicaments d'Aristote. Ce n'est pas du tout le niveau philosophique. C'est la substance prise comme catégorie. Et la substance prise comme catégorie, c'est le genre. C'est pour vous faire comprendre comment saint Thomas, là, est dans une perspective bien aristotélicienne, mais de l'Aristote logique, de l'Aristote des prédicaments, de l'Aristote des catégories, et pas du tout de l'Aristote métaphysique. C'est un peu gênant d'aborder le problème de la personne du côté logique. Et saint Thomas, de ce point de vue-là, est dépendant d'une tradition qui provient de Boès. C'est quand même curieux de voir combien la logique a joué un rôle important en théologie. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant, la personne est une notion clé au point de vue théologique. C'est une notion clé au point de vue théologique. On devrait tout de suite avoir une notion quand même de la personne qui soit. Eh bien, c'est curieux. cette définition de Boès. Saint Thomas est témoin, là, quand il dit ça. Il est témoin de ce qui s'est dit de son temps. C'est le jeune Saint Thomas qui entre dans une tradition et qui commente les commentaires, qui commente les sentences. Et donc, il entre dans une tradition. Première chose qu'il dit, la personne prise d'une façon générique, c'est la substance. C'est quand même gros. Ça ne gêne pas. Je ne crois pas. Saint Thomas n'a pas rougi en disant ça. Il était dans une tradition. Il était dans une tradition, qui montrait le primat de la logique sur la pensée philosophique, en théologie. Je crois que si on ne voit pas ça, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, et on ne comprend pas ce que Saint Thomas a apporté de nouveau. On ne comprend pas. On ne comprend pas la grandeur de Saint Thomas. Il faut comprendre qu'il est dans une tradition où le mot « personne » est conçu d'une façon logique. Alors vous comprenez comment, immédiatement après Saint Thomas, vous allez retomber après dans la logique. Et au fond, vous voyez combien la théologie a été marquée par la logique. Et ça, c'est la scolastique. C'est la scolastique, elle a été marquée par la logique. Il faut toujours, hein, au point de vue philosophique, c'est quand même très très bon comme exercice, savoir si on est au niveau logique ou si on est au niveau philosophique. On doit pouvoir discerner ça. Il faut arriver à discerner le point de vue logique et le point de vue métaphysique. Bon, le genre. La différence spécifique, c'est quoi? Rationnel. C'est vrai, rationnel. Animal raisonnable. C'est la différence spécifique. La différence spécifique, c'est l'universel le plus précis. Le plus formel. Si le genre et l'universel le plus fondamental, et donc celui qui a la plus grande extension et la plus petite compréhension. La différence spécifique a, au contraire, une compréhension très grande et une toute petite extension. Elle vient préciser. C'est ce qui précise, qui vient déterminer le genre. La différence spécifique présuppose le genre. Il n'y a de différence spécifique qu'à partir d'un genre. Oui. Les universaux se tiennent les uns par rapport aux autres. Et alors, il y a ce côté relatif de la différence spécifique par rapport au genre qui fait que rationnel est la différence spécifique qui vient déterminer animal. L'espèce, c'est tout simplement homme. C'est le lien de la différence spécifique et du genre qui forme entre l'espèce. Alors, vous savez bien qu'au point de vue philosophique, il n'y a qu'une seule espèce qu'on peut définir, l'homme. C'est suffisant, puisque la philosophie s'occupe de l'homme. Je ne peux pas définir l'araignée, parce que je ne connais pas la différence spécifique de l'araignée. La différence spécifique de l'araignée pour vous, c'est que c'est une bête qui pique. Mais ce n'est pas la différence spécifique de l'araignée. C'est vrai, c'est l'araignée. Parce qu'il y a des araignées qui ne piquent pas. Donc ce n'est pas une différence spécifique, vous voyez. C'est un propre, la plupart du temps, l'araignée, quand il voit un bon biftec, il le pique. N'est-ce pas? Alors, c'est très bien, ça c'est le propre. Mais c'est quelque chose qui ne définit pas vraiment l'araignée. Le seul animal que vous connaissez, vraiment la différence spécifique, c'est l'homme. Donc vous ne pouvez définir que l'homme. C'est pour ça, sans doute, qu'on s'attache tellement à cette définition. Parce que c'est la seule définition. C'est pour ça qu'il faut la maintenir, c'est sûr. Il n'y a que l'homme que vous pouvez définir, animal raisonnable. Une fois que vous avez dit ça, vous avez la définition, l'unique définition, il n'y en a pas d'autre. Hein. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas d'autre, il n'y en a qu'une, animal raisonnable. C'est beau qu'il y en ait une, parce que ça montre que mon intelligence humaine, raisonnable, est faite pour connaître l'homme. Ce qu'elle définit l'homme. Une fois que je dis animal raisonnable, ça ne m'avance pas beaucoup. Parce que je vois que des quantités d'hommes ne sont pas des animaux raisonnables. Ils sont des animaux, ça tous. Ils sont tous des animaux. Mais raisonnables, ça disparaît. Tu vois, ça disparaît à certains moments. Alors, raisonnable. L'espèce. L'espèce, c'est le lien des deux. Le propre, c'est ce qui vient normalement. Ce n'est pas la propriété, le propre. Le propre se fonde sur la propriété. C'est ce qui vient normalement. Comme conséquence de la différence spécifique, ou comme conséquence du genre. Quand je dis que l'homme est un animal mortel, cette propriété provient du genre. Et quand je dis que l'homme est un animal capable de rire, cette propriété vient du rationnel. Quelqu'un qui est raisonnable est capable de rire. Quelqu'un qui n'est pas rationnel, qui n'est pas raisonnable, est incapable de rire. Ça, vous voyez, évidemment, la déperdition de l'intelligence dans quelqu'un qui ne sourit jamais. Parce qu'alors, à ce moment-là, il y a quelque chose de l'intelligence qui disparaît. Parce que c'est pas caractéristique. Ce qui est caractéristique de l'intelligence humaine, c'est le sourire. Le sourire apparaît. Et puis, l'accident, finalement, c'est très facile, c'est ce qui vient s'ajouter. L'accident revient. Mais évidemment, ça s'ajoute au genre, normalement. Parce qu'il y a peu d'accidents qui peuvent s'ajouter du côté de la différence spécifique, mais très peu. C'est beaucoup plus du côté du propre. Donc, nous avons les cinq prédicables. Vous voyez, quand saint Thomas définit la personne par le genre et la différence spécifique, saint Thomas utilise la logique pour définir ce que c'est que la personne. Il ajoute le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité. Alors ça, c'est très curieux. Le point de vue, là, qu'est-ce que c'est que ce point de vue? Est-ce que c'est un point de vue logique? En disant la réalité individuelle. Mais nous sommes déjà devant un petit cocktail assez particulier. Parce que ça, c'est pas dit dans les prédicats, l'individu. L'individu seul existe. Alors l'individu, oui, je peux l'ajouter. Les scolastiques l'ont ajouté. L'individuum vagum. Hein, c'est l'individu vague. Le tout vague dans le brouillard. C'est le tout vague. L'individu vagum. Alors, est-ce que saint Thomas fait allusion à ça? Parce que ça fait partie de la logique. On a un concept universel, puis on a un concept tout à fait particulier, l'individu va. Je crois que c'est bien ça que saint Thomas prend. Le point de vue sous lequel on va, c'est qu'au fond, quand il s'agit de la personne, comprenons bien, on ne reste pas en face de l'universel. Pourquoi? Parce que c'est une substance individuelle. Alors vous voyez là, la logique qui va pousser jusqu'au bout,